Bienvenue à Scal 16-17 avec Fulgence Blas au micro avec cette journée froide de lundi. Bon ben qu'est-ce que vous voulez, c'est l'hiver qui monte le bout de son nez. Fulgence Blas au micro. Voilà, c'est parti pour cette première émission de la semaine. En première partie d'émission, il y a Louise Thibault qui va nous parler de point cerveau en santé. Bon, on va penser vitamine B, qu'on en a parlé un peu la semaine passée. Elle va aller beaucoup plus en détail aujourd'hui. Et puis à 16h30, je vais recevoir Prune Lethier, qui est directrice générale et cofondatrice de La Puce à l'Oreille, pour nous parler des sorties de 3 séries de balado collaboration avec la Fondation des Petits Trésors. C'est très intéressant d'ailleurs. Et puis bon, le temps qui me restera, moi je vais parler un peu de la COP 27, là, cette première semaine de négociation au bilan mitigé pour les pays en développement, et puis quoi au jour, quoi encore, et c'est la journée mondiale du diabète, 14 novembre, voilà, c'est comme ça. Et cette année quoi, il y a le thème aussi, hein, il faut tenir compte de ça, c'est l'accès aux soins, c'est le thème de la journée mondiale du diabète 2022. Voilà, si vous voulez en savoir plus, restez à l'écoute jusqu'à la fin de l'émission, c'est-à-dire à 17h. Bonjour Louise.
Bonjour Fulgence.
Alors, point oui, cerveau bonjour, en santé, bonjour. Pensez, on doit penser vitamine B.
Oui. On doit penser vitamine B pour cerveau en santé, ça rime et c'est vrai. Hein, ouais. C'est tout à fait vrai. En fait, je vais aller, comme tu l'as dit, un peu plus en profondeur dans notre nutrition.
Oui.
Les vitamines dont on a besoin. Donc, comme on l'a déjà dit, il y a des vitamines qui sont importantes pour le corps, mais aussi pour le cerveau.
Pour le cerveau.
Oui, parce que on veut tous maintenir nos facultés intellectuelles le plus longtemps possible.
Oui, 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 oui.
Et il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour le cerveau. Il y a beaucoup de nutriments, mais moi, je vous parle aujourd'hui de la vitamine B ou des vitamines B.
Oui, parce qu'il y a plusieurs types de vitamines B.
C'est ça, c'est une grande famille.
Oui.
Et les vitamines B dont je vais vous parler, en fait, pour lesquelles la recherche a vraiment été concluante, ce sont les vitamines B3
oui.
Et ses multiples B6, 9 et 12.
Okay.
Donc voilà, et ce sont des vitamines qui, je vous le rappelle, ne s'accumulent pas dans notre corps, ni dans notre cerveau, parce qu'elles sont solubles dans l'eau, donc elles sont très faciles à éliminer. Donc, idéalement, il faudra les consommer quotidiennement ou presque quotidiennement.
Okay.
Donc, ces vitamines, elles remplacent plusieurs fonctions dans notre corps. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de votre cerveau. Et je vais vous dire une chose qui est très, très importante, c'est que les vitamines du complexe B, elles interviennent pour fabriquer des substances chimiques dans notre cerveau qui sont des neuromédiateurs.
Les neuromédiateurs.
Qu'est-ce qu'ils font?
Ouais, c'est des négociateurs. C'est des médiateurs.
Oui. Et puis, en fait, ce sont des annonceurs de nouvelles.
OK.
Dans notre cerveau, il y a beaucoup, beaucoup de bulletins de nouvelles. Mmh. Beaucoup plus qu'à la télé, qu'à la radio. En fait, il y en a au micro millisecondes, si on veut. Mmh. Et puis, qu'est-ce qui nous donne les nouvelles? Ce sont les neuromédiateurs.
Wow.
Donc, pour le complexe B, il y en a certains qui sont plus importants que d'autres.
Oui.
Je vous ai déjà parlé de la sérotonine, qui est un neuromédiateur important, mais aussi la noradrénaline et le GABA, G-A-B-A, qui est l'abréviation pour l'acide gamma-aminobutyrique. Alors, tu seras d'accord avec moi, on va dire GABA.
Oh, tout simplement, pour ne pas...
C'est ça, pour ne pas...
Tomber dans les mauvaises prononciations.
C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça fait, tout ce beau monde-là? Ça maintient notre capacité d'apprendre, de raisonner, de mémoriser et aussi de prendre les bonnes décisions.
Ah oui.
Okay. Parce qu'on pense souvent, fonction cognitive, mémoire, mais prendre des bonnes décisions, ça fait partie des fonctions cognitives. Alors, c'est ce que tous ces neuromédiateurs-là font. Et j'aimerais commencer par vous parler de la vitamine B9, excusez-moi, qu'on appelle aussi le folate.
Le folate.
Oui, c'est ça.
Pourquoi parler de folate en premier,
de la B9? Eh bien, c'est parce que le folate, il est essentiel quand notre petit cerveau se développe dans le ventre de notre maman.
Ah.
Ouais. Et puis, quand il y a des apports insuffisants en folate, lors même des mois précédant la grossesse et aussi durant la grossesse, eh bien, il y a une malformation du tube neural qui peut se faire. C'est une malformation du cerveau et c'est très, très grave et c'est irréversible.
Oui. Des enfants qui naissent avec ça, avec ce genre de manque ou bien de troubles, et puis ça finit pour de bon.
Il y a des associations, dont une association canadienne que je connais, qui, pour la malformation du tube neural. Alors, chez les personnes qui désirent devenir enceintes, eh bien, on recommande même de prendre des suppléments de folate avant, pour s'assurer que le niveau de folate sera suffisant pour le développement du cerveau.
Ah, le B9.
Ouais, c'est pas rien ça.
Ouais, non, c'est pas rien. Uh-huh. Heureusement qu'il y a des suppléments, hein.
Ah ben rien, c'est assez supplément, mais dans la vie de tous les jours, si vous ne désirez pas devenir enceinte, ben c'est pas nécessairement nécessaire de prendre de l'acide folique. Il y en a beaucoup dans nos aliments. Okay. Et je vais vous ajouter à ça que l'acide folique, bon, non seulement c'est important pour le développement normal du cerveau, mais c'est aussi important pour toutes sortes de fonctions, comme pour les fonctions enzymatiques. Il y a des enzymes qui sont nécessaires pour former les neuromédiateurs. Et bien, ces enzymes-là, elles ont besoin de cofacteurs. Et puis, le folate, c'est un cofacteur important pour les enzymes. On a des enzymes dans notre corps, mais il y en a aussi beaucoup dans notre cerveau. Et puis, je vous ai parlé de la cognition, la mémoire, la prise de décision, le raisonnement, mais aussi le folate, c'est important pour nos neurones. En fait, pour la structure, pour le maintien de la structure de nos petites cellules neuronales, c'est très, très important. Et pour les membranes, parce que dans le cerveau, il y a des membranes qui sont composées essentiellement de gras, mais elles ont besoin de folate pour bien se maintenir.
Il y a du gras aussi là-bas dans le cerveau?
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y a environ 60% de notre cerveau qui est
composé de fat. Ok.
On parle de fat brain.
Apprends des choses, toi.
Parler du cerveau, c'est très, très bon.
Le gras, moi, je croyais que c'était au niveau, moi, je... Ok. Il est présent partout, le gras.
Il est présent partout. Mmh. Oui, c'est ça. Autour de nos organes, on a des grains internes, on a des gras sous la peau. C'est bien, tu parlais de la saison froide qui s'installe. Ben le gras, c'est un bon isolant. Oui, c'est un bon isolant. Il n'y a pas que ça non plus comme isolant. Il ne faut pas juste miser sur notre gras.
Ah non, faut pas qu'on dise aux gens de grossir parce qu'il y a le froid qui arrive pour se protéger mieux quoi, avec le gras.
Il y a certains animaux qui le font. Hein,
oui.
Hibernation, mais nous, on a quand même des maisons bien chauffées, donc on n'a pas besoin.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète, je vais en parler, l'obésité et autres, là.
Ah oui, c'est très, très important. Hein? Mmh. Le diabète, c'est une maladie qui, malheureusement, a une courbe ascendante.
Oui.
Pour toutes sortes de raisons, mais oui, c'est très important. Tu me l'avais demandé, j'aurais préparé un petit discours sur ça, mais bon, je me concentre
On va revenir sur ça.
On pourrait revenir sur ça.
Oui.
Nos petits neurones et puis nos membranes grasses, graisseuses du cerveau, eh bien, elles permettent aux informations de bien voyager. Alors, de bien se relayer à travers tout le cerveau. Alors, j'ai dit, le cerveau envoie plusieurs bulletins d'information pour nous prévenir, par exemple, qu'il fait froid. Hein, on a des senseurs sur la peau qui nous préviennent, ça c'est froid, ça c'est chaud. Tout ça, ça passe par le cerveau.
Wow.
Ouais. Alors, on peut penser que la recherche a montré qu'un apport insuffisant de folate pouvait influer sur l'activité cognitive quand on prend de l'âge, mais aussi à tout âge. Et j'ajouterais à ça que les chercheurs ont montré que si on a de faibles niveaux sanguins de certaines vitamines dont le folate, eh bien, il y avait un risque d'avoir des changements dans le cerveau qui sont caractéristiques de certaines formes de démence, dont la maladie d'Alzheimer. Alors ça, ça a été démontré en laboratoire, dans des travaux bien menés, bien contrôlés.
Mais il est tellement complexe ce cerveau là, notre cerveau, il est tellement complexe en fin de compte.
On ne comprend pas.
Je ne sais pas.
La question à se poser, hein, on touche à la fin de ma chronique, c'est où est-ce qu'on trouve le folate? Moi, je réponds à ça d'abord dans vos aliments. Alors, j'ai une question pour toi, Fulgence. Est-ce que tu aimes le foie?
Oui, mais j'en mange pas tous les jours.
J'en mange pas tous les jours.
Bon. Oui.
Alors,
quelques rares fois, j'en mange, oui, j'en mange pas tous les jours.
Une fois par semaine?
Non, pas du tout. Peut-être une fois ou 6 mois, ou bien quelque chose comme ça.
Alors, tu pourrais peut-être accélérer la cadence et puis en manger plus souvent.
Le foie de quoi?
Bah, le foie, en fait, peu importe, de bœuf, de veau, de poulet, ça contient énormément de folate. En fait, ça, si tu en manges une fois par semaine ou une fois par 2 semaines, eh ben, ça va t'aider à rencontrer tes besoins.
Ok.
Bon, alors, si tout le monde n'est pas comme Fulgence et moi, parce que moi j'aime beaucoup le foie de veau, alors j'en mange environ 2 fois par semaine, ce qui est important non seulement pour mon folate, mais aussi pour le...
J'aime, mais ça ne fait pas partie de mon alimentation standard.
Ben oui, mais...
Voilà, comme tu le dis maintenant, comme je viens de l'apprendre, il va falloir que je m'y mette.
Un petit peu plus,
oui. Un petit peu plus qu'au lieu d'une fois ou 6 mois.
Ah, ben oui, vraiment pas beaucoup.
C'est parce que j'aime, mais c'est pas comme les pâtes ou bien le pain ou bien et autres que je mange tous les jours. Bon, mais presque tout le temps, quoi. Ça fait partie de mon alimentation standard.
La nouvelle saison hivernale qui s'annonce, bah, on peut changer des petites choses dans son alimentation. Donc,
oui, on n'a pas le choix.
Foie, c'est bien. Pour ceux qui n'aiment pas le foie, ou qui sont végétariens carrément, sachez que les légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois, fèves, ça contient beaucoup de folate.
Ah ouais, ok.
Sachez aussi que, au Canada et aux États-Unis, il y a beaucoup d'aliments, il y en a plusieurs qui sont enrichis de folate. En fait, la forme de folate qu'on ajoute à certains aliments, ça s'appelle l'acide folique.
Oui.
C'est de la vitamine B9 qui est très disponible pour l'organisme. Eh bien, il y en a dans toutes les farines de blé.
Ah, bon, d'accord.
Si vous achetez de la farine à pâtisserie, à pain, de la farine tout usage, eh bien, il y a du folate qui a été ajouté.
Oh oui, d'accord. Du folate à originer de chez nous, mais pas du folate de Russie ou bien je ne sais d'où, là.
Ah, ça, je peux pas vous...
Voilà, mais mieux vaut dire conseiller du folate de chez nous. Comment, du blé de chez nous, quoi. C'est-à-dire d'Amérique du Nord.
C'est ça. Mmh. Alors, et puis regardez la liste des ingrédients, vous allez voir acide folique.
OK.
Et puis, c'est une mesure qui a été instaurée pour justement prévenir les déficiences.
Acide folique, oui.
Oui. Mmh. Dans les pâtes alimentaires, il y en a beaucoup. Et... dans plusieurs légumes feuillus ou non, il y en a énormément.
Ah ouais.
Les épinards, les asperges, le brocoli, même les artichauts, la laitue, ouais. Il y a beaucoup.
C'est pas ça qui manque.
Eh oui, c'est pas ça qui manque. Dans les céréales à déjeuner, à petit déjeuner, il y a de l'acide folique qui est ajouté. Même dans les oranges.
Ah bon?
Oui, souvent on me parle d'orange, bon, c'est riche en vitamine C, mais c'est aussi riche en folate.
En B9.
Oui. Oui. Et puis, vous ne pouvez pas nécessairement le voir parce que, comme tous les fruits, les légumes frais, même la viande fraîche, il n'y a pas obligation de tableau de valeur nutritive, donc on voit pas ce qu'il y a dedans. Mais moi, je vous certifie qu'il y a du folate dans les oranges.
Wow.
Donc, si vous n'aimez aucun de ces aliments, absolument aucun, et que vous vous dites, peut-être que je pourrais prendre des petits comprimés, des petites pilules d'acide folique, attention. Parce que y a eu plusieurs travaux de recherche qui ont été faits.
C'est bien de faire cette mise en garde, Louise. Vas-y, je te laisse la parole.
Parce que les résultats positifs, ils se font attendre. Alors jusqu'à maintenant, tout ce qui a été trouvé, c'est pas de résultats du tout, pas vraiment d'effet sur les fonctions cognitives et tout, ou des effets négatifs.
Ok.
Alors, comme tout supplément, il faut faire gaffe, il faut se demander est-ce que j'en ai vraiment besoin et est-ce que ça va me nuire plutôt que de m'aider.
Et ça, ouais, de toute façon, ça ne plaît à personne de tout le temps avaler des comprimés ou bien je ne sais quoi.
Ça.
Mieux vaut se les procurer dans les aliments naturels, quoi.
C'est ça, oui. Mmh. Et on arrive à bien rencontrer nos besoins en mangeant quelques fruits, quelques légumes par jour.
Ouais.
C'est pas plus... Sauf si vous décidez... Vous désirez devenir enceinte, là, c'est une autre
chose. C'est une autre chose, quoi. Une autre paire de manches.
C'est pas ton cas, ni celui de Maurice.
Ah non.
on est
pas là-dedans.
À votre prochaine visite au supermarché ou au marché,
oui.
lorgner les oranges et puis la plupart des légumes verts en contiennent. Pas mal, beaucoup. Et puis, manger un petit peu plus de foie.
Oui.
Légumineuses, et puis voilà, vous aurez assez de vitamine B9 ou de folate.
De folate. Merci beaucoup,
Louise.
Et bon reste de semaine à toi.
Merci beaucoup à toi de même. Au revoir.
Au revoir. Ah ouais, c'était Tyler, un homme badi, ouais. Ok, comme je disais avant, en début d'émission, je vais parler aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète. Oh, comme vous l'avez entendu avec la chercheuse scientifique Louise Thibault qui fait les chroniques de nutrition ici chaque lundi, manger un peu plus de foie, voilà, c'est mieux. Bon, moi je savais pas que c'était si important que ça, voilà, avoir un peu de B9, le folate. Diabète, journée mondiale du diabète, c'est aujourd'hui le 14 novembre, j'espère que les diabétiques sont au courant, qui se sont retrouvés peut-être ou bien avec le médecin, ou bien dans le quartier, ou bien s'il y a des associations de diabétiques qui se sont retrouvés pour savoir quelles sont les décisions, les précautions à prendre, tout ça. Il y a des gens, c'est une maladie très qu'on ne voit pas, de toutes les façons. Ça, c'est cette maladie chronique qui grave d'ailleurs, qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline. C'est l'hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang. C'est ça, l'insuline. Ouais, c'est l'insuline. Ou lorsque l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. Ça peut arriver. Pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes. C'est ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui sont diabétiques, mais d'autres non. Voilà. Et donc, ça augmente le nombre. Ça grimpe. C'est fou, quoi. Le nombre de personnes souffrant de diabète a pratiquement quadruplé depuis 1980, là. La maladie augmente dans le monde entier, hein, pas seulement ici, c'est une maladie planétaire, en particulier dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, mais même dans les pays riches, il y a des diabétiques, voilà, ça n'a rien à voir avec la richesse. Et les causes d'ailleurs sont très 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 complexes, il faut le dire, et cette hausse s'explique aussi en partie par l'augmentation du nombre de personnes en surpoids. Et les personnes en surpoids ne sont pas dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, souvent c'est dans les pays riches, qu'on dit pays riches, où on trouve les personnes en surpoids, une augmentation de l'obésité, de la sédentarité. Voilà. C'est une cause majeure de cécité, d'insuffisance rénale, d'accidents cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, AVC, comme on dit, et d'amputation des membres inférieurs, tout ça, c'est pas bénin. Voilà. Donc il faut avoir un régime alimentaire sain, il faut de l'activité physique, des médicaments, un dépistage régulier, le traitement des complications vont permettre aussi de traiter le diabète et d'éviter ou de retarder les conséquences qu'il peut avoir. Ouais. C'est très sournois, cette maladie, si je ne me trompe pas. Donc la journée mondiale du diabète a vu le jour en 1991, à l'initiative de la Fédération internationale du diabète et de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Célébré chaque année 14 novembre, date anniversaire du médecin et scientifique canadien Frédéric Banting. 1891-1941, il est né en 1891 et il est mort en 1941. Et qui avait découvert d'ailleurs l'insuline avec son confrère Charles Best en 1922. Donc la journée mondiale du diabète est devenue une journée officielle des Nations Unies. En 2006, avec l'adoption, il y a d'autres qui disent 2007, non, c'est en 2006, oui, avec l'adoption de la résolution par l'Assemblée nationale de l'ONU. C'est ce qui fait que j'en parle, parce qu'aujourd'hui, c'est le 14, voilà, je ne peux pas le savoir et puis ne pas en parler à escale 16-17. Donc, pour cette résolution, l'Assemblée nationale encourage l'Assemblée générale encourage les États membres à élaborer des politiques nationales de prévention et de traitement du diabète et de prise en charge des maladies qui soient compatibles avec le développement durable et le système de soins, bien sûr, et tenant compte aussi des objectifs de développement convenus à l'échelle internationale. Cette année, le thème, c'est quoi ? L'accès aux soins. Donc, 100 ans après la découverte de l'insuline, des milliers d'enfants à travers le monde n'ont toujours pas accès à cette médication ou encore à des soins pour leur diabète. Ah oui, malheureusement. 100 ans après, donc à l'occasion du centenaire de la découverte de l'insuline, il faut avoir une pensée pour tous ces enfants. Il faut qu'on se mobilise, que tous les enfants du monde entier puissent obtenir les meilleurs soins pour leur diabète. Oui, c'est ça. Donc, pour souligner cette journée, se montrer solidaire à la cause, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Un chandail, un jean, un foulard, une cravate, à l'instar des parents et des enfants, avant de soutenir la cause du diabète. Tu bleu. Ouais. J'ai un chandail bleu avec moi. C'est la raison. Voilà. Même si Maurice est en train de regarder la couleur de son chandail. Ah ouais. Ok, l'événement visant démystifier aussi, voilà, c'est-à-dire Il faut arriver quelquefois à le démystifier, quoi, le diabète, je veux dire. Donc chaque année, la journée mondiale, c'est l'honneur de, en l'honneur de Frédéric Bantin, comme il a dit, donc c'est le jour de naissance aussi. Hein, voilà d'où ça vient là. C'est son jour de naissance, le 14 novembre 1891. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est grâce à eux que depuis 1921, les enfants diabétiques peuvent réguler leur taux de sucre dans le sang, ce qui permet leur survie. Rien ne rend acceptable la maladie des enfants. C'est ça quand même, c'est intéressant, il faut le dire. C'est organisé toujours par la Fédération internationale du diabète. Oui, et puis est soutenu par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et la plus importante campagne mondiale de sensibilisation au diabète. Voilà. Et il faut dire bravo à tous ceux qui sont derrière, qui travaillent dans l'ombre qu'on ne connaît pas. Et voilà, qui font tout pour que les gens qui souffrent de cette maladie puissent en sortir. Ouais. Même avec les technologies, on est doté d'outils impensables. Il y a à peine 20 ans, bon, des montants énormes sont investis dans la recherche, donc l'espoir, ça a raison d'être. Il faut espérer. Merci. Alors, les diabétiques, un petit clin d'œil à vous, à ma manière, comme ça, modeste. Et puis, bon, ben, voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vous et ne négligez pas les prescriptions que vos médecins vous font. Voilà, de quoi je voulais parler encore aujourd'hui? Je voulais parler un peu rapidement de la... Je ne sais pas, j'ai encore du temps. Hein, Maurice, j'ai encore du temps? Pardon? Ok, d'accord. Alors, je vais garder ça pour la deuxième partie de l'émission. Je vais parler un peu d'environnement de la COP, cette première semaine de négociation au bilan mitigé pour les pays en développement. Voilà. Ça va se poursuivre, hein. Je garde ça tranquillement après mon invité, parce que j'aurai encore des minutes, une dizaine de minutes là-bas, ou bien 8 minutes là-bas pour parler de d'autres choses. Donc après mon invité, Prune Lethier, qui est la directrice générale et la cofondatrice de la Puce à l'oreille, pour nous parler de la sortie des 3 séries de balado, collaboration avec la Fondation des Petits Trésors. Très, très beau projet d'ailleurs. Elle est mieux placée que moi pour parler de cette collaboration et puis de la sortie de ces 3 séries de balado. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je vous reviens avec mon invité. Voilà, Prune Lethier, pour vous parler de la sortie des 3 séries balado de La Puce à l'oreille. À tout de suite. Restez à l'écoute.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie de l'émission et puis la dernière partie aussi, une quinzaine, une vingtaine de minutes avec mon invité Prune Lethier qui va nous parler, qui est la directrice générale, cofondatrice de la Puce à l'oreille. J'aime bien le titre de cet organisme. Il faut nous parler de la sortie des 3 séries de balado. Belle collaboration, voilà, avec la Fondation Les Petits Trésors. Je ne sais pas si c'est leur première collaboration ou bien ils ont toujours collaboré. Elle est mieux placée pour nous le dire. Bonjour Prune Lethier.
Bonjour, merci de vous recevoir.
Oui, mais c'est moi. Non, appelez-moi simplement Fulgence, ça va. Ne me mettez pas sur un pied des salles, monsieur Blas. Alors, comment la sortie des 3 séries de balade, comment s'est passée cette collaboration avec la Fondation des Petits Trésors, là? Comment, qui est venu vers qui? Qui a tendu le bras? Qui a tendu la main?
Alors, en fait, c'est une première collaboration avec la Fondation qui a mis du temps à s'installer parce que les premières réunions ont lieu au début de la pandémie, donc vous imaginez.
Attends, on vous entend un peu mal. On vous entend un peu mal.
Vous m'entendez mieux?
Non, pas du tout.
Ah, mince, ok. Ben, pourtant, moi, je vous entends très bien, pourtant.
Oui.
Est-ce que là, c'est un petit peu mieux?
Oui, ça va,
oui,
ça pourrait.
Okay, parfait. Non, ça, c'est la première collaboration de la Puce à l'oreille avec la Fondation des Petits Trésors.
Oui.
On a commencé à travailler ensemble parce que on avait contacté la Fondation dans le cadre d'un appel à projet.
Oui.
Que la Fondation avait fait en proposant de créer une série balado pour les petits pour parler de santé mentale.
Mmh.
On s'est rendu compte qu'il y avait assez peu de propositions qui s'adressaient directement aux jeunes publics. pour parler de santé mentale. Il y a beaucoup de choses qui s'adressent aux parents, aux éducateurs aussi, mais pour les jeunes directement, il y a assez peu de choses. Donc on voulait créer avec eux quelque chose dans cette optique-là.
Oui.
Et puis finalement, on est très heureux puisqu'ils ont finalement décidé de financer et de collaborer avec nous.
Oui.
Pour non seulement une, mais trois séries balado. Et ce qui a amené donc à la production qui a été mise en ligne il y a quelques semaines.
Mmh.
L'idée étant de proposer trois contenus pour trois tranches d'âge différentes.
Oui.
Donc on a une proposition pour les plus petits qui s'appelle Souris se confie, qui est écrite par la grande autrice jeunesse Marianne Dubuc.
Oui.
Donc là on va parler d'émotions, on va parler d'anxiété, de stress pour les tout petits, les 3-5 ans.
Mmh.
Ensuite de ça, on a une proposition pour les un peu plus grands qui s'appelle Cortex Floration. Qui est écrite par Lucie Lemonnier et qui s'intéresse au mécanisme, ce qui se passe dans votre cerveau quand vous vivez une situation de stress ou d'anxiété. Donc là, on est plutôt sur des pré-ados, pour les 9-12 ans. Et la dernière proposition, c'est Le Moineau, qui est une série vraiment pour les adolescents et qui parle d'intimidation à partir de témoignages qui ont été recueillis auprès d'adolescents qui ont été eux-mêmes intimidés ou intimidateurs, d'adolescents et d'adultes aussi qui ont, dans leur passé, vécu cette situation-là.
Oui.
Donc on peut couvrir toutes les tranches d'âge. Je me suis trompée sur la première, c'est pas 3-5 ans, pardon, c'est 6-8. Donc 6-8, 9-12 et ensuite 13 et plus.
Oui, 6-8 et puis 9-12 et puis voilà, et puis 13 et plus. Quoi. Voilà, j'ai écouté vos balados, super bien fait.
Super.
Surtout au niveau de l'intimidation, Maxime, quelque chose comme ça que j'ai écouté. J'ai dit, mais je reçois Prunier, il faut que j'écoute ça. Pour savoir exactement. Non, c'est pas grave. On traverse toute cette période d'hiver qui commence maintenant. On a eu de la chaleur durant 2-3 semaines. Tout d'un coup, c'est le froid qui nous terrasse maintenant. Alors,
exactement. Vous
êtes productrice en numérique jeunesse et jeune chercheuse à l'UQAM. Vous êtes investie dans différents projets visant à proposer des contenus de qualité aux enfants et aux ados aussi.
Oui.
Et analyser les impacts. Et aussi, vous êtes une gigue de littérature jeunesse.
Oui,
une
gigue. Vraiment. Vraiment. C'est même
voilà.
Édifiant, je dirais.
Voilà.
J'ai
et puis.
J'ai fait un inventaire il y a quelques temps. Je suis arrivée à 1300 albums à la maison.
Waouh.
Ça ne va plus du tout. Je suis envahie.
Ouais. Et puis, vous aimez partager vos trouvailles. C'est souvent un peu fatigant pour votre entourage. Oui, j'allais vous demander. Alors cette collaboration au fait, puisque vous êtes une geek de littérature jeunesse, je me suis dit, elle était dans son domaine.
Ah ben oui.
Quelque part.
Oui, complètement. Oui, absolument.
Mmh.
Absolument, puis c'est vraiment pour ça que moi j'ai cofondé avec deux partenaires la puce à l'oreille, c'était vraiment pour produire du contenu et créer du contenu narratif pour les jeunes publics. Ça rejoignait complètement ma passion pour la littérature jeunesse. Bien sûr, on est sur un médium différent. On n'est pas sur du papier, mais dans l'audio.
Oui.
Mais par contre, on raconte des histoires. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires et me faire raconter des histoires aussi.
Oui. Et les histoires ne se racontent pas. Oui, ça peut se raconter aussi avec les images, mais beaucoup plus. Quand on dit audio, c'est la voix.
Absolument.
Voilà.
Absolument. Et puis, on peut raconter des histoires fantastiques, sans images, juste par la puissance de la voix et du son.
Oui.
Et ça, c'est assez fabuleux à explorer.
Ils ont été satisfaits, les responsables de la fondation Petit Trésor.
Oui, bon, on espère, ils vont l'air.
Ouais. vous avez eu des. Vous avez même, l'essentiel est que si vous êtes satisfait de la collaboration, bon, ben, ils sont pas. Je les ai eu déjà en entrevue ici, les responsables.
Oh, oui, ils m'avaient dit. Absolument.
Voilà.
Mais oui, je pense qu'ils sont satisfaits. Puis le balado s'inscrit dans une campagne plus large, qui s'appelle Pas dans ton coin, et qui est, à notre avis, extrêmement nécessaire. Pour soutenir les jeunes et leur santé mentale à travers les années. Donc, on espère que cette campagne va pouvoir continuer à se déployer dans les prochaines années parce qu'à mon avis, c'est absolument nécessaire de poursuivre l'information des jeunes à cet effet.
Comment vous avez réussi à convaincre les différents narrateurs?
Oh, ben nous, on travaille beaucoup avec des comédiens et des comédiennes, donc on a toute notre pool finalement de comédiens et comédiennes avec qui on travaille régulièrement.
Oui.
Et la plus grande difficulté avait probablement été pour la dernière série, donc pour les ados, Le Moineau, puisque là on partait de témoignages.
Oui.
Donc on est allé, grâce aussi avec le concours de la formation, est allé un peu en recrutement, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Donc on a rencontré beaucoup de gens et on s'est rendu compte que Il y avait des gens qui étaient très très à l'aise de parler de ça, d'autres qui étaient beaucoup plus intimidés, qui n'avaient pas envie de revenir sur ces notions-là. Donc, évidemment, on n'a pas insisté, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de libération de la parole.
Oui.
Notamment parmi les interviews qu'on a pu faire, on a eu des retours de gens qui nous ont dit bah, « ça nous a fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir mettre des mots là-dessus, d'être entendu, d'être écouté aussi, puisqu'ensuite, le balado a été diffusé. » Donc, je pense qu'il y a eu un pouvoir un peu thérapeutique aussi de la participation des personnes interviewées au balado.
Ouais. Quelle est la mission première de la puce à l'oreille? J'aime bien ce nom, la puce à l'oreille.
On était assez fiers de l'avoir.
Oh, la puce à l'oreille. Oui, oui. Vous créez, vous produisez, diffusez des contenus. La mission première, allez-y, je vous laisse nous narrer ça.
Absolument. Donc, nous, on existe sous la forme d'un ODNS, on est installé à Montréal.
Oui.
On existe depuis fin 2018, même si on a commencé un petit peu plus tôt. Et notre mission première, c'est vraiment de créer. Donc, quand j'ai créé, c'est à la fois avoir des idées, produire, voire diffuser des contenus audio-narratifs. Donc, ça peut être des balados, des parcours sonores, des audio-guides pour les enfants.
Oui.
Puis les enfants, là aussi, c'est une acception assez large puisque ça peut être les tout-petits jusqu'aux ados. Mais c'est vraiment notre expertise, c'est vraiment des contenus audio-jeunesse.
Oui.
Donc, on travaille beaucoup pour des musées, des fondations, des médias, pour des éditeurs, des compagnies de théâtre jeunesse. Donc, on travaille avec tous ces gens-là pour développer des contenus qui vont s'inscrire, par exemple, soit comme une offre de médiation pour des musées, par exemple, soit comme un contenu complémentaire
sur
la bonne papier ou d'une pièce de théâtre. Par ailleurs, ce qu'on fait aussi beaucoup, depuis peut-être un an ou deux, c'est la médiation ou de la formation des jeunes. Donc on intervient en bibliothèque, en école, en événement pour apprendre aux enfants à créer un balado, à l'écrire, à faire de la recherche, à poser leur voix. Et à développer leurs compétences là-dedans. Ça, c'est passionnant, parce que du coup, on fait des contenus en plus très, très sympathiques.
Oui.
Et là, depuis plus récemment, on a embauché, en fait, par l'intermédiaire d'une bourse de recherche, une enseignante en francisation, qui est également étudiante de la maîtrise en éducation à l'UQAM, pour développer des propositions pour les élèves en francisation. Parce qu'on croit très fort, et c'est une croyance qui est partagée par l'enseignante qu'on a embauchée, qui s'appelle Nabila Kebaili. On croit très fort que le balado peut être un outil fantastique pour apprendre du vocabulaire.
Oui, ça peut beaucoup aider.
Absolument, et pour des jeunes qui apprennent le français, on pense que c'est un super bel outil pour l'apprendre de manière ludique et en lien avec le langage.
Ah, ils peuvent l'écouter à l'ordinateur, avec le cellulaire ou bien en voiture, même tout ça. Ils n'ont pas besoin d'être à la maison avec un bouquin sur le canapé ou bien sur la chaise de table de cuisine en train de lire. Ça décourage.
Oui, c'est ça, c'est très mobile. On peut l'écouter quand on veut. On n'a pas non plus besoin d'avoir un ordinateur dans l'écrit. Là, je veux dire, dès lors qu'on peut avoir un accès à Internet, c'est plié.
Oui, c'est parti. C'est ça,
Tous les contenus qu'on produit sont gratuits.
C'est le but des podcasts, des balados, comme on dit en français, pour les uns, podcasts pour les autres. Oui, c'est le but d'ailleurs, pour permettre aux gens de même en mouvement, pas chez soi, et puis être en mesure de lire un livre ou bien d'écouter. Voilà. Complètement. Une émission de radio ratée, ou pas manquer en direct, tout ça. Et puis, ce genre de production, ce que vous faites actuellement avec la Fondation des Petits Trésors. Voilà. Et la collaboration avec les écoles, au fait, en dehors de ce que vous venez de dire, avec l'enseignante à l'UQAM, est-ce que vous vous adressez aux enseignants ou bien aux directions des écoles secondaires ou bien des cégeps aussi, là, pour avoir une collaboration? Le besoin, un peu.
Tout à fait.
Oui.
On a développé donc des contenus d'ateliers pour les écoles. Donc, en ce moment même, on a plusieurs ateliers en cours dans les écoles.
Mmh.
Les jeunes apprennent à créer du balado, puis écrivent. Ce qui est intéressant avec le balado, c'est que tu développes plein de compétences, quoi. On apprend à faire de la recherche, on apprend à écrire, on apprend à penser le son aussi. C'est très riche pour un projet pédagogique.
Oui.
Et puis par ailleurs, on a développé ce qu'on appelle nous le club des profs de la puce à l'oreille, qui est un outil sur notre site et sur Facebook gratuit évidemment, pour lequel on propose des fiches pédagogiques pour une grande majorité de nos contenus,
donc
pour que les profs puissent utiliser le balado en classe avec des fiches déjà préconçues, qui sont évidemment gratuites, téléchargeables sur notre site, avec des propositions un peu de veille de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'audio. En tout cas, on a envie d'animer ça, parce qu'on pense vraiment que le balado est un super contenu et médium pour développer des apprentissages en classe.
Oui, il est venu pour rester, le balado, le podcast. Il est venu pour rester, il va pas.
Absolument. Mm-hmm. Oui, absolument. Et puis, c'est sûr que moi, je travaille en numérique depuis longtemps, donc je ne suis pas une anti-écran, vous vous en doutez. Mais par contre, je pense quand même que les enfants ont été très exposés ces dernières années, en particulier avec la pandémie.
Oui.
Et donc, c'est le fun aussi de pouvoir proposer des contenus qui soient riches, numériques quand même, mais en dehors de l'écran. Ça, je vous condamne, c'est très complémentaire à vos propositions.
Oui, oui, oui. Et souvent, quand on voit les gens avec le cellulaire dans les rues, ou bien le iPad et autres, le téléphone, les appareils mobiles avec les écouteurs dans les oreilles, on pense qu'ils sont tout le temps en train d'écouter de la musique, c'est pas vrai?
Pas forcément, oui, pas, absolument. Ouais, je ne sais pas vous, moi j'écoute essentiellement quasiment plus de balado que de la musique finalement. Dans l'ensemble de mes activités quotidiennes, je suis d'accord avec vous, c'est quelque chose qui se marie bien à une autre activité, faire la cuisine, faire du ménage, se déplacer. On peut mettre ça en fond sonore et c'est très agréable.
Oui, oui. Et quels sont vos liens avec la recherche? Dans mes trucs, je suis allé sur le site. C'est vous bénéficiez depuis sa création d'un partenariat avec la chaire en littérature médiatique. Parlez-nous un peu de ça.
Ah, en fait, moi, c'est un lien qui s'est fait assez naturellement, puisque moi, je viens depuis un mois d'être diplômée de doctorat. Et donc, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les productions jeunesse musique.
Oui.
Et donc, j'ai été, en tant qu'étudiante de doctorat, sous la l'égide de cette chaire en littératie médiatique multimodale. Donc, on est resté partenaire depuis. Et avec eux, on travaille sur toute la conceptualisation d'une outil pédagogique, qui est vraiment validé par la recherche, mais également, ils nous soutiennent beaucoup à observer les impacts. Donc, on va faire parfois des entrevues avec des jeunes, des focus groups, eux-mêmes font des entrevues de leur côté, pour pouvoir essayer de comprendre est-ce que le balado a un impact, ou on pense que oui, là, mais il faut vérifier, sur la curiosité des jeunes, sur leurs connaissances. Est-ce que les jeunes vont avoir envie de partager leur découverte avec leurs professeurs ou avec leurs amis? Tout un pan d'études qu'on est en train de faire avec la chaire et dont on espère bientôt avoir des résultats pour les partager aussi à nos communautés.
Wow. On revient sur les trois thèmes. Là, on va parler un peu de reste pas dans ton coin. Ça, j'aime ça. Reste pas dans ton coin. Voilà. Avec des enjeux de santé mentale. Oui, ben, ça vous dit aux gens s'ils ont des problèmes, ou bien aux enfants, les parents qui remarquent quelque chose, ou bien les parents qui arrivent à tardivement remarquer l'isolement de leurs enfants, Et quel est le conseil que vous avez à leur donner, par exemple, pour ne pas que ces enfants s'isolent?
Oui, absolument. Alors, non, moi, je suis pas psychologue pour enfants. En tout cas, vraiment, je laisse à la Fondation le soin de renseigner ça plus. Puis le site est très, très riche en informations là-dessus. Mais c'est sûr que nous, on a appris beaucoup en créant les balados, puisqu'on a travaillé avec des psychologues pour enfants, on a travaillé avec des gens, des éducateurs. Effectivement, c'est sûr que, et c'est l'objet même de la campagne, il faut pousser les enfants à aller parler de leurs problèmes, de leur stress, de leur anxiété, que ce soit avec un parent, mais aussi un ami, ou peut-être un adulte, parce que c'est vraiment ça qui permet de développer, enfin, de démarrer le processus de guérison, ou de démarrer le processus de prise en charge. Ce que la Fondation avait constaté, puisqu'elle nous a informé, c'est ça, c'est qu'effectivement, les enfants ont de la misère à mettre des mots sur leurs émotions, se sentent un petit peu dépassés, et ont de la difficulté à identifier une émotion très forte comme quelque chose qui est gérable, en fait, qui sont un peu submergés.
Oui.
Donc c'est vraiment l'idée de développer des lieux de parole avec l'enfant aussi, pour qu'il se sente à l'aise de venir confier des émotions et mettre des mots dessus.
Et qu'est-ce que... Moi, quand je vois les âges, là aussi, 8, c'est souris se confie, ça c'est, j'adore, souris se confie, le cortex exploration 9-12, et puis le moineau c'est de 13 à 17. Et puis il y a quelque chose aussi, là, que j'ai vu, un théâtre parmi nous.
Alors, le théâtre parmi nous, c'est un autre collaborateur de la Fondation, qui eux sont vraiment une compagnie de théâtre, qui ont développé, de ce que j'en ai compris, évidemment, moi c'est pas, je travaille moins avec eux, parce que nous on s'occupe vraiment juste des balados, mais le théâtre a développé des outils et des contenus pour, pareil, aider à mettre des mots sur les enjeux de santé mentale que peuvent
rencontrer. Oui, conçu spécialement pour un auditoire de jeunesse, pour les jeunes.
Exact, exactement.
Waouh, impressionnant. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux parents qui nous écoutent, qui n'ont pas encore pris connaissance de vos trois balados? Moi, j'ai écouté les trois. J'adore. Non, très beau travail. Pardon? Oui. Moi, je suis auditif.
Oui, je fais de la radio.
Voilà, je suis auditif. Le moineau m'a beaucoup, ça bouscule, hein, le moineau. Ouh, c'est...
On a d'ailleurs mis un trône d'avertissement, là, peut-être pour les plus jeunes. C'est un commentaire un petit peu plus dur pour les plus jeunes.
Oui, il y a une intimité quelque part, mais ça bouscule.
Oui, ça bouscule, absolument.
Oh,
c'est un petit souci, hein, on voulait rentrer dans quelque chose de fort, et c'est le témoignage qu'on a recueilli était cette nature-là, donc on ne voulait pas les dénaturer non plus.
Comme dirait l'autre, ça secoue les cocotiers. Voilà.
Je transmettrai le compliment au réalisateur.
Voilà. C'est ça, non, c'est vraiment. Alors, je vous laisse pour les dernières 45 secondes qui nous restent, je vous laisse le micro.
Écoutez, d'abord merci de m'avoir reçu. Je suis ravie de pouvoir parler de ces balados-là, et plus généralement de l'activité de la puce à l'oreille, et aussi plus généralement de la campagne Reste pas dans ton coin. Moi, je vous très envie d'encourager les parents qui nous écoutent à aller découvrir la puce à l'oreille.
Comment ils peuvent avoir les parents, les enfants?
C'est vraiment simple, sur internet, donc c'est lpalo.com, ou alors tapez la puce à l'oreille balado,
oui.
Vous allez probablement tomber dessus.
Oui.
Tous les contenus sont accessibles sur le site, complètement gratuitement. Il y a également les fiches pédagogiques gratuites pour tous les enseignants qui souhaitent utiliser le balado dans leur classe.
Oui.
Et par ailleurs, évidemment, on est sur l'ensemble des plateformes de balado diffusion, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music et autres. Donc,
oui.
On est vraiment facile à trouver. Donc, abonnez-vous, écoutez nos contenus, faites-nous des retours. Et si vous êtes enseignant, réunis dans vos classes, on sera ravis de venir créer des ateliers avec vous.
Merci beaucoup, Prune Lyotier, directrice générale, cofondatrice de la puce à l'oreille, et c'est pour nous, qui vient de nous parler de la sortie de ces trois séries balado. Et puis, j'espère vous réentendre, vous reparler pour d'autres projets aussi comme ça.
Avec grand plaisir.
Et puis, une nouvelle deuxième belle collaboration avec la fondation Le Petit.
On
l'espère. Allez, bonne fin de journée à vous. Au revoir.
Merci, vous aussi. Au revoir.
Au revoir. Sola, baby. Merci beaucoup. Nozi, avec la complicité. Le titre de la pièce est Idlizo, voilà, avec la complicité Oscar et autres membres de l'Indélé. Voilà, on va terminer en beauté avec, on parlait d'environnement parce que la Coupe continue jusqu'à la fin de la semaine, si je ne me trompe pas. Oui, c'est la deuxième semaine qui a débuté ce matin. Oui, Coupe 27 en Égypte, une première semaine de négociations au bilan mitigé pour les pays en développement. Voilà, elle se poursuit après une semaine de réunions. L'Afrique et pour l'Afrique et plus généralement les pays en développement les plus vulnérables au changement climatique, bien sûr. Le bilan de la première semaine est mitigé. Beaucoup de questions restent en suspens. Voilà, pour la deuxième semaine, qu'est-ce qui se passe là-bas quand je vois les vidéos? Moi, ça me fait sourire, ça m'attriste un peu. Et puis je reviens, je souris, je dis, ces messieurs en cravate, là, quelques-uns, oui, ils sont pas tous. Il y a d'autres qui sont conscients quand même, mais il y a d'autres qui vont là-bas pour le show. Ouais, ce qui a fait du bruit à la COP 27 la semaine dernière, c'est surtout la soufflerie des climatiseurs poussés à fond et des centaines d'avions et des jets qui passent au-dessus du centre de conférence d'ailleurs. Voilà, vous voyez, c'est côté négociation par contre, c'est bien silencieux. Hein, voilà, sinon, ouais, c'est ça, on va parler de COP, d'environnement, il y a les avions, les jets privés qui sont dans le ciel, vous voyez. Et la voix de la société civile, ORS, interdit de manifester dans les rues de Tchel Alam Tchek par les autorités égyptiennes, n'a pas porté très loin cette année. Bon, toutes les questions épineuses ont été reportées d'ailleurs au jour à venir. On voit ce que ça va donner. Donc Sébastien Treyer, qui est le directeur de l'Institut du développement durable et des relations internationales, a noté toutefois que des concessions de la part des pays développés, il y a eu des annonces de pas mal de pays européens sur le fait que le financement des pertes et préjudices pouvait être mis sur l'agenda de la COP et des annonces sur le fait, par exemple, que y a le président Emmanuel Macron qui a dit il allait travailler avec la première ministre de la Barbade. Bah, je me rappelle bien d'une réunion à l'ONU, elle a pris la parole, elle n'est pas du tout allée avec le dos de la QSL. Ah ouais, pour la réforme des institutions financières internationales d'ici le printemps 2023. Mais il y a des points sensibles. Là-bas, ouais, les gens marchent sur les œufs. Donc, pour tirer une conclusion, est-ce qu'ils sont enfin, tirer une conclusion de la première semaine, les ministres vont venir dans cette deuxième semaine, ils vont discuter des points sensibles, notamment la question de l'aide financière aux pays, des pays occidentaux, aux pays les plus vulnérables au changement climatique. Comme je l'avais dit ici en semaine passée, les gens, ils se disent là-bas, que ce soit dans les pays du Sud, ouais, vous avez tout pollué pour vous développer, nous on veut se développer, vous nous demandez de faire attention. Alors là, ça marche pas. Qui doit financer? C'est vous qui avez pollué pour vous développer, c'est vous qui allez financer. Alors, cette aide d'ailleurs qui est jugée très très très, ou bien trop faible et mal adaptée, le plus important, ça va être de vérifier ce qui peut être annoncé sur de nouveaux financements. Est-ce qu'on va l'avoir? On va pouvoir avoir des engagements un peu plus importants, mais c'est pas facile de croire qu'on va avoir des choses vraiment nouvelles, de nouvelles choses là-bas. Donc, les engagements déjà pris ne se sont pas, en effet, forcément tenus d'ailleurs depuis fort longtemps. Oui, les pays du Sud n'arrêtent pas de crier. Ouais, d'autres qui se déchirent les chemises, mais les tensions sont vives à ce sujet, dont le retour de la confiance entre pays du Sud et du Nord serait donc déjà une réussite en soi. Voilà, c'est le mécanisme de financement. Et des pertes et dommages très encadrés. On va voir comment ils vont trouver des solutions là-bas pour essayer d'aller de l'avant, terminer la semaine sans toutefois se serrer les cravates. Restez à l'affût, je reviendrai comme ça de temps en temps là-dessus jusqu'à la fin de cette rencontre des grands messieurs là-bas, des messieurs en cravate. Merci à toi Maurice Bolduc. On se revoit le vendredi. Voilà, bonne semaine à toi. Et je dis merci à Louise Thibault et à notre invité Prune Lyotier, et je dis merci à Catherine Bourderon qui a fait la recherche. Et puis je dis merci à nos fidèles auditeurs auditrices à cette émission Escale 16-17, et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Et d'ici là, prenez soin de vos minutes, et sur ce je vous dis ciao.